Radio Okapi.
Pour un jour où Pacifique s'est clôturé hier, ce programme a permis durant 2 ans de construire plusieurs infrastructures de l'État en Ituri, son coût total 2,8 millions de dollars américains. Lutte contre la déforestation dans la Chopo. Le Centre international pour la recherche forestière CIFOR sollicite l'implication des députés provinciaux afin d'encadrer les acteurs du secteur bois d'énergie, cela en mettant en place une feuille de route susceptible d'identifier les pistes de solutions irrélatives. Et puis, l'évacuation des hommes en uniforme des sites miniers est toujours souhaitée par les autorités provinciales du Haut-Katanga. Cependant, le ministre provincial des Mines ne comprend pourquoi ces hommes en uniforme ne veulent pas quitter ces lieux. Georges Mawine est l'invité de ce journal. Avant d'aller plus loin, sachez que c'est hier vendredi à 18h que le cessez-le-feu décidé par le mini-sommet de Luanda devait entrer en vigueur dans le Nord Kivu. Il était aussi question que les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda se retirent des positions conquises, alors qu'il est difficile de savoir si les deux exigences ont été respectées. Par contre, dans la journée d'hier, FARDC et rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont affrontés dans le Rutshuru et le Masisi, occasionnant un déplacement massif des populations civiles. On y reviendra notamment dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonjour. Il a permis de construire plusieurs infrastructures de l'État en Ituri pour un coût total de 2,8 millions de dollars. Le projet pour un Djougou Pacifique s'est clôturé hier. Ce programme vise à appuyer le gouvernement pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés locales et assurer le relèvement communautaire des populations affectées par les conflits armés dus à l'activisme des groupes armés. Plusieurs autorités de l'Ituri ont pris part à la cérémonie de clôture de ce projet, exécuté par un consortium de 4 organisations dont Associtouri, AGDEC, Conseil danois pour les réfugiés ainsi que Justice Plus. Jean-Claude Lokidile, qui faisait partie de la délégation, nous propose ce reportage.
Durant 2 ans, plusieurs activités ont été réalisées dans 8 entités ciblées où plusieurs projets socio-économiques ont été exécutés. La réhabilitation manuelle des infrastructures sociales et économiques, la mise en place des groupes d'épargne communautaire ou encore la tenue des bazars d'échange et du dialogue sur la paix. Michael Nollet est le coordinateur provincial de l'Ituri de l'association Unité d'appui à la stabilisation au bureau de la MONUSCO Bounia.
Nous avons fait des activités de ce qu'on appelle IMO, c'est de donner de l'emploi pour reconstruire des infrastructures communautaires comme des ponts, des routes. On a construit aussi le centre hospitalier à Pimbo. Et donc ça, c'est vraiment pour donner des occasions aux différentes communautés de se retrouver et de améliorer le sentiment de bon vivre ensemble.
Après 2 ans de mise en œuvre de ce projet, le chef du secteur de Djati estime que le résultat obtenu à ce stade est positif. Claude Matteste.
Chez nous, il n'y avait pratiquement pas un centre de santé de référence où quelqu'un devait aller se soigner à 25 km à Fataki, à dizaines de kilomètres à Drodro. Ils ont fait la réhabilitation des centres de santé convenables aux désidératants de la population.
Pour consolider cette accalmie dans la zone, des habitants interrogés demandent au gouvernement de vite démarrer le programme de désarmement des combattants candidats à la démobilisation. De Fataki, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Hier 25 novembre, la communauté internationale a commémoré la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, au Nord Kivu, les activités en rapport avec cette journée, couplées à celles liées à la campagne Tolérance Zéro et 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, ont été lancées à Beni. Pendant cette période, plusieurs activités de sensibilisation de la communauté pour éradiquer les violences faites à la femme et la jeune fille seront organisées par différentes structures et organisations de la place qui luttent pour le respect des droits de la femme avec l'accompagnement des autorités locales. Marc Marofimbo, reportage.
Une centaine de femmes et des hommes sont venus au coup d'avoi de cette activité. La chef du bureau des jeunes familles à fond de la ville de Beni en a profité pour dresser la situation sombre que traversent la femme et fille de Beni depuis un bon moment. Madame Rita Sabouni.
Il y a des violences au niveau des efforts. Il y a des violences qui se font au niveau des cas de déplacés. La situation difficile qui fait assez que les jeunes filles se lancent dans l'activité de sexe et de survie juste pour venir aux besoins de leur famille.
Le maire de la ville de Beni, qui a officiellement lancé cette activité, reste confiant du résultat de cette campagne. Le commissaire supérieur principal, Nassis Kachalemouteba.
Je reste confiant que pendant les 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences basées sur le genre, vous ne manquerez pas à formuler les recommandations qui seront orientées selon le degré des compétences pour que nous puissions ensemble prévenir les violences faites aux femmes.
Notons que sur le plan provincial, cette campagne s'active sur le thème « Unissons-nous tous ensemble pour la protection et la prévention des violences faites aux femmes et jeunes filles dans le contexte des conflits au Nord Kivu. Nous sommes fatigués. » Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en RDC, le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a également lancé ses activités dans ce sens hier. Au cours d'une conférence de presse tenue à son siège à Kinshasa, la coordonnatrice du RENADEF a circonscrit le cadre de cette campagne. Elle consiste notamment à l'actualisation des lois visant la réduction des violences sexuelles et basées sur le genre, le leadership féminin et l'élimination des inégalités par rapport à l'utilisation des services VIH, mais jusqu'à quand va-t-on se battre sans éradiquer concrètement ces violences dans nos sociétés? Marie-Zaïna Nyombo explique au micro de Jeff Ngoy.
Parler aujourd'hui des activités de ces jours d'activisme, c'est pour booster, c'est pour rappeler, c'est pour dire qu'il y a encore des violences qui continuent à se vivre dans nos communautés et que tous, nous devons travailler ensemble pour les éradiquer. Donc c'est tout un processus, c'est pas du coup. Dans le temps, les filles n'étudiaient pas. Donc les filles n'étaient pas considérées. Les actes de violence faits aux femmes, la déconsidération de la femme et de la jeune fille dans nos communautés doit cesser. Dans le temps, les femmes, et ça continue le combat, les femmes n'avaient pas droit à la terre. Parce que tout simplement, elle est femme. Quand elle va se marier, elle va aller faire fonder son foyer là-bas et n'est plus la nôtre. Et quand elle arrive dans ce mariage, elle est aussi considérée comme une visiteuse qui n'a pas de place là-bas. Finalement, le statut de la femme, elle est où? Avec le travail ou les activités de ces jours d'activisme, nous arrivons quand même à expliquer que le statut de la femme doit être clairement défini.
Et puis, nous voulons la paix, retirez-vous, jamais le mensonge ne triomphera, la justice. Déclaration de Anne Yuna, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes du parti politique FPCN, Front pour un Congo nouveau. Elle s'est ainsi exprimée hier lors de son investiture à ce poste par l'initiateur du parti, Claude Nyamugabo. Anne Yuna a ainsi réitéré l'appel issu du mini-sommet de Luanda, demandant au mouvement terroriste M23 de se retirer du territoire congolais. Elle invite par la même occasion toutes les femmes qui ont adhéré au parti FPCN à soutenir les FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale. Anne Yuna, coordonnatrice de FPCN, dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Je rends hommage à nos vaillants soldats qui défendent en ce moment notre patrie. À cet effet, les femmes du FPCN soutiennent l'ultimatum donné au M23 par les mini-sommets de Luanda et condamnent le non-respect de cet ultimatum par les rebelles. Nous voulons la paix. Retirez-vous. Jamais les mensonges ne triompheront à la justice. Jamais les femmes du FPCN trahiront les Congos. Notre pays restera un et indivisible.
Signalons par ailleurs que dans son mot d'investiture de la coordonnatrice nationale, Claude Nyamugabo, initiateur du parti, a rassuré toutes les femmes que chaque liste électorale de son parti comportera au moins le nom d'une d'entre elles. D'après lui, à travers cette Ligue des femmes, le FPCN entend amener la femme congolaise à jouer un rôle prépondérant dans la défense des intérêts de la RDC, la justice pour tous, le travail, la démocratie et le progrès social. Direction la province de la Tchopo, je vous l'ai dit dans les titres, le Centre international pour la recherche forestière, CIFOR, sollicite l'implication des députés provinciaux afin d'encadrer les acteurs du secteur bois d'énergie dans la lutte contre la déforestation. Pour cela, ils doivent réfléchir sur les voies et moyens d'y parvenir en mettant en place une feuille de route susceptible d'identifier les pistes de solutions irrelatives. Cet appel leur a été transmis au cours d'un atelier relatif à l'utilisation du bois d'énergie, atelier organisé à la Assemblée provinciale de la Tchopo du 23 au 24 novembre courant. Reportage de Jacques Moukonkolé.
L'exploitation des bois d'énergie contribue grandement à la déforestation du paysage de Yangambi et conséquemment perturbe l'écosystème. Afin de réduire la pression sur la forêt, le CIFOR compte sur les députés provinciaux pour qu'ils sensibilisent la population sur la nécessité de la préservation des forêts. Georges Mumbere, expert de CIFOR, explique.
Les députés parlent à la voix du peuple, ils ont aussi la base derrière eux. L'Assemblée provinciale était l'organe législatif. Ils devaient élaborer des lois et réfléchir dans ce sens, les lois qui peuvent accompagner et encourager les acteurs dans la filière du bois énergie.
Les députés provinciaux disent avoir compris le message. Ils promettent de s'impliquer afin d'accompagner les bonnes pratiques des paysans dans le secteur du bois d'énergie. Témoignage de Tovel Lotika, président de la commission PAJ à l'Assemblée provinciale de la Tchopo.
Comme député provincial, nous sommes obligés de compléter nos textes qui régissent ces domaines de la foresterie. Au niveau provincial ici, nous avons compris qu'il fallait nécessairement rédiger ou déposer au sein du bureau de l'Assemblée provinciale un édit complémentaire à nos textes déjà existants.
Cet atelier s'est achevé par la mise en place d'une feuille de route, un guide pour tous les acteurs impliqués dans cette dynamique. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio.
Les pays africains doivent changer le paradigme en optant pour la transformation locale de leurs ressources naturelles, en développant des chaînes de valeur. C'est l'une des grandes décisions prises hier à Niamey au Niger par les chefs d'État et des gouvernements à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre congolais de l'Industrie a invité les pays africains à élaborer des plans opérationnels pour réaliser ce grand rêve. On écoute Julien Paluku Kaungi dans cet extrait proposé par Alain Rongmouching.
Il s'est avéré que nos économies étaient tournées vers l'exportation des matières premières, ce qui n'a pas aidé effectivement les peuples africains à se retrouver ou à chasser la pauvreté. Et donc ce sommet de l'industrialisation est un moment fort qui va permettre aux différents pays de devoir changer de paradigme de gestion de leurs ressources pour que désormais la transformation se passe sur le continent et que nous puissions donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. À ce moment-là, nous n'allons plus subir les cours des matières premières qui est fixé à l'extérieur ou dans d'autres continents. Donc c'est une décision importante pour le continent africain de penser à son industrialisation, mais il ne suffit pas de prendre des décisions d'industrialiser les continents. Il faut maintenant élaborer des plans opérationnels qui vont nous permettre de passer à l'action. Et parmi ces plans opérationnels, c'est notamment des décisions comme celle de consacrer des ressources importantes des budgets des pays africains à l'industrialisation du continent pour qu'on construise un écosystème qui va permettre demain au continent d'être l'interface au développement de l'économie mondiale.
Mbetu l'Africa, c'est le titre d'une soirée de la mode, de l'art, de la peinture et de la musique organisée le jeudi 24 novembre au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa à l'honneur de l'artiste peintre, illustrateur, guitariste et violoniste Christopher Omwami, un des boursiers du programme d'éducation de l'entreprise Kibali Gold Mine. Grâce à une bourse de cette entreprise, ce jeune a pu effectuer et finir ses études à l'Académie des Beaux-Arts. Les œuvres d'art de ce jeune artiste originaire de la tribu Mbetu de la province Yotuélé ont été exposés et vendus aux enchères au cours de cette soirée. Et selon le directeur résident de Kibali Gold Mine et Barrick, Cyril Mutombo, le parcours de Christopher Omwami illustre parfaitement d'immenses richesses en termes de capital humain que la RDC régorge en plus de ses ressources minières et naturelles. On écoute le directeur résident de Kibali Gold Mine au micro de Jean-Marc Matwaki.
Le Congo, c'est un pays au potentiel, pas seulement du potentiel minier, mais du potentiel humain. Nous avons des mines au terme traditionnel, mais nous avons aussi des mines humaines, comme ces talents que nous avons découverts via le programme d'éducation de Kibali. Nous investissons dans la responsabilité sociétale d'entreprise, les activités environnementales, les activités diverses. Et une de ces activités, c'est que un des boursiers de Kibali a brillé. Il a fini à l'Académie des Beaux-Arts et c'est un artiste complet qui est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est cet artiste qui représente la jeunesse de demain. Ce sont ces jeunes qui vont gérer nos mines de demain, qui vont gérer le pays demain. Et c'est ainsi que nous avons pensé avoir cette activité où nous exhibons ces talents, où nous montrons à la face du monde que le Congo regorge d'une jeunesse. Et c'est sur cette jeunesse que nous devons mettre nos espoirs et aussi travailler en investissant pour l'amélioration du talent de cette jeunesse.
Autre nouvelle, le Conseil provincial de sécurité du Haut-Katanga avait en date du 17 août dernier accordé un délai de 48 heures aux hommes en uniforme qui occupent les sites miniers de l'Équité. Trois mois après, la situation n'a guère changé. Voilà pourquoi en date du 30 octobre, Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme, s'est adressée au chef d'état-major pour faire respecter les mesures prises, notamment par le Conseil provincial de sécurité du Haut-Katanga pour le retrait des hommes en uniforme des sites miniers. Des précisions avec Timothée Mbuya, président national de Justicia Asbel, au micro de Jean Gandou.
Justice a saisi l'opportunité pour demander que ces mesures-là soient exécutées parce que l'auditorat supérieur militaire du Haut-Katanga a déjà aussi lancé un ultimatum qui a expiré pour que tout militaire et policier non éligible qui se retrouverait sur les sites miniers soit arrêté et déféré devant les instances judiciaires compétentes. Nous estimons que les autorités gouvernementales devraient tout mettre en œuvre pour faire exécuter ces mesures, d'autant plus que la candidature de la République démocratique du Congo comme pays membre au principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme est en étude en ce moment au secrétariat général. Mais aussi pour nous, les retraits des militaires et des policiers va aider à améliorer la situation sur les sites miniers dans les sites environnants, notamment en ce que il y aura diminution sensible des violations des droits humains. Mais de l'autre part, il faut prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pallier au retrait de ces militaires et policiers, notamment en renforçant la présence de la police des mines et en recrutant également les services de sécurité privée pour assurer la sécurité des sites miniers.
Actualité internationale.
Nous sommes en Ouganda. Les vacances de Noël sont avancées pour freiner la propagation d'Ebola dans ce pays. Pour les élèves ougandais, c'est Noël avant l'heure. Les autorités ougandaises leur donnent congé en ordonnant la fermeture des écoles dans tout le pays afin d'endiguer la propagation de la maladie à virus Ebola.
L'invité.
L'évacuation des hommes en uniforme des sites miniers est toujours souhaitée par les autorités provinciales du Haut-Katanga. Cependant, le ministre provincial des Mines ne comprend pourquoi ces hommes en uniforme ne veulent pas quitter ces lieux. Georges Mawine espère qu'avec le niveau du leadership au sein de l'armée, les choses pourraient changer. Le ministre provincial des Mines dans le Haut-Katanga s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre Georges Mawine, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de la province du Haut-Katanga, le conseil de sécurité avait décidé que les hommes en uniforme puissent quitter les sites miniers. Mais jusqu'à ce jour, cette décision est restée lettre morte. Y a-t-il des raisons à cela?
Vraiment, ça c'est une grande désolation de notre part. Le conseil de sécurité avait déjà décidé à ce que tous les militaires puissent quitter les sites miniers. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes taxés de partout dans le monde avec l'exploitation des minerais non tracés. Parce qu'il y a des militaires qui se mettent à exploiter d'une manière illégale les sites miniers. Et ces sites-là sont visibles et les militaires sont visibles. On le voit chaque jour. Moi-même, en tant que ministre des Mines, j'avais informé l'autorité provinciale pour lui signifier de la présence inexplicable de beaucoup de militaires dans des sites. Le gouverneur avait convoqué une réunion de sécurité à laquelle ils avaient décidé de faire partir tout le monde. Vous aviez suivi vous-même l'auditeur supérieur militaire qui avait même donné un ultimatum pour remettre de l'ordre dans ce sens-là. Même s'il y a un travail à faire dans les mines, la police, elle est là pour sécuriser les sites avec des missions précises. Mais ce qui est inexplicable, c'est la présence des militaires qui gênent presque tout le monde.
Qui les y avait amenés?
Mais il faut demander à leurs troupes, parce que chaque militaire appartient à une unité, un bataillon et une brigade. Une fois ces militaires-là sont interpellés, ils vont vous dire ils sont là sur ordre ou sur demande de qui. Quelles que soient les raisons qu'ils peuvent donner, la place des militaires, ce n'est pas dans des sites miniers, la place des militaires, c'est au front.
Dans les sites miniers, qu'est-ce qu'ils y font? Ils gardent ou ils exploitent?
La première des choses, ils les occupent. Après avoir occupé, vous allez trouver des sites où il y a des engins et ils font entrer des creuseurs. Parfois, il y a des accidents, des cas de mort. Les creuseurs entrent dans des sites comme des clandestins. D'habitude, ils travaillent la nuit, parfois les jours, mais quand l'accident est arrivé dans un site ou même vous qui êtes des autorités civiles, vous n'avez pas de pouvoir d'y accéder. Il y a des morts, eux-mêmes, ils enterrent. Le code minier a prévu les cas d'information en cas de mort d'un site minier. Mais lorsque vous avez des cas de mort, eux ne signalent pas. Ce sont des dispositions légales du code minier qui sont pertinentes. Raison pour laquelle nous insistons, nous continuons à attendre une évolution sur le retrait des unités de l'armée qui traînent encore dans des sites miniers.
Ce sont les sites miniers appartenant à des entreprises minières ou ce sont des sites destinés à l'exploitation artisanale?
Là où il y a les minerais, c'est là où vous allez les trouver. Que ce soit pour des sociétés, que ce soit pour les artisanaux, partout. Et toutes les raisons qu'ils avancent, ce soit de fausses raisons. L'objectif est d'occuper les sites et d'y exploiter à leur manière.
Leurs chefs ont-ils été contactés par vous ou approchés par vous pour parler de cette situation?
Généralement, c'est une question qui se traite plus au niveau du Conseil de sécurité. Moi, en tant que ministre des Mines, je n'ai pas de pouvoir à contacter une autorité supérieure de l'armée. Dans le cas de la corporation, on peut s'écrire, mais pas lui demander d'enlever des troupes. Et voilà, et même j'ai été interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale où on m'a posé la même question sur la présence des militaires dans des sites miniers. Mes réponses ont été claires. Il n'appartient pas au ministre des Mines d'aller sortir les militaires dans ces sites-là. Dès lors que moi-même, j'ai déjà informé l'autorité provinciale et l'autorité provinciale a déjà convoqué la réunion de sécurité qui a débouché à des décisions de voir tous les militaires quitter les sites miniers. Mais ils continuent à être là sur le plan légal. Le code minier n'autorise pas ce qu'il y ait des hommes en uniforme sur les sites miniers. Parce que même dans le cas de la traçabilité des produits, les produits du sang qu'on ne peut pas connaître parce que chaque fois dans des sites où il y a des trésors, des militaires, on enregistre souvent des cas de meurtre. Les civils qui ne veulent pas obtempérer aux taxes imposées par les militaires dans des sites, souvent nous assistons à des cas de meurtre. Et tout ça, les responsabilités sont toujours partagées et au finish, rien ne change. Nous, nous déplorons ça en tant que ministère de Mines.
Y a-t-il combien de sites qui sont occupés par ces militaires?
Beaucoup. Je ne sais pas vous énumérer ici. Nous avons un nombre important de militaires de différentes unités qui sont dans des sites miniers. Et justement, ça crée un climat froid. Hein. Les investisseurs ne veulent pas toutes ces présences des militaires sur certains sites, mais parfois il y a aussi d'autres sociétés qui recourent à l'armée pour solliciter leur présence, pour sécuriser d'après eux leurs installations, mais ça déborde toujours, mais ils n'appartiennent pas à l'armée de sécuriser les sites miniers. S'ils ont besoin de sécuriser leur site, ils n'ont qu'à recourir auprès du commissariat provincial de la police qui pourra mettre à leur disposition les éléments de la police avec des missions précises de sécuriser leurs installations, mais pas aller chercher les militaires de l'armée. Là, ça ne s'explique pas. Les militaires n'ont aucune raison de se retrouver sur les sites miniers.
Monsieur le ministre Georges Mawiné, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par cet entretien avec le ministre provincial des Mines dans le Haut-Katanga que nous clôturons la série sur la problématique de la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers. Il s'entretenait donc avec Jean Gandou. Ce journal est terminé. Il a été supervisé par Pele Kipela Mondo, Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bosuma devant ce micro. Merci.